Moi, je prends le maillot, oriental. Je refuse totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai été dit que vous au passage, sans que en combinant les deux, la vie de mes présidents trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous propose ce premier numéro de la semaine. Le gouvernement congolais avait initié au cours de la dernière décennie deux grands projets de développement humain. Il s'agit donc de 5 chantiers de la République et de la révolution de la modernité. Objectif, améliorer l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à l'eau et l'électricité et aux infrastructures de base. Certains observateurs estiment que 10 ans après, le taux d'exécution de 5 chantiers, notamment, est faible et son bilan mitigé. Une autre opinion pense plutôt que le bilan est relativement positif, vu que l'exécution de ce projet s'est fait sur fonds propres du gouvernement. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Notez que Julie Pézabongonda est au standard, purée la magie à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Martin Sebou-Jangoui. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous recevons dans ce studio M. Jean-Marie Kassamba, promoteur des Télé 50, président de l'UNPC Kinshasa et coordonnateur de la visibilité du 5 chantier. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour, et je précise que c'est le coordonnateur de la révolution de la modernité aujourd'hui qui va s'évaluer en document de stratégique pour le développement de la RDC.
Voilà, alors on sait que le 5 chantier notamment reposait sur ce que tout le monde attendait ou tout le monde avait compris, le contrat chinois qui a été signé d'ailleurs en 2007, après que le chef de l'État ait annoncé ses projets ambitieux. Alors ces projets prévoyaient la construction ou encore disons la réhabilitation à RDC par la Chine de plus de 2400 km de route, 2000 km de chemin de fer, 32 hôpitaux, 145 dispensaires et 2 universités. Le coût total était de 9 milliards de dollars, si je m'abuse, pour lesquels l'RDC devait commencer déjà un processus d'accéder à pays émergents. Qu'en est-il aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba?
Merci beaucoup, mon cher frère et confrère hier, pour cette invitation. Et ça me fait énormément plaisir de partager cette émission avec nos frères à travers le monde et ceux qui suivent Radio Okapi. Quand on parle d'un pays comme le nôtre, il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. D'où vient la RDC? Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Où est-ce que nous voulons aller? Lorsque Joseph Kabila accède au pouvoir en 2001, il hérite d'un pays en lambeaux. En lambeaux. Autrement dit, il n'existait plus du Congo que de nom. Il y avait trois parties du pays. D'un côté, il y avait les Rwandais avec le RCD, il y avait les Ougandais avec le MLC. Le gouvernement central contrôlait une partie ici. Et sur le plan économique, il y avait moins de 500 millions de dollars de budget. Pas d'armée, pas d'administration, pas d'infrastructure. Donc, un non-pays. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph Kabila? Il a commencé d'abord par réunifier ce pays, lui donner un semblant d'existence. Jusqu'à ce que les belligérants se retrouvent. Et pendant ces temps de réunification du pays, il a lancé un programme économique. Rappelez-vous que nous avons repris avec le partenaire traditionnel, Banque mondiale, Fonds monétaire international, parce que cette coopération structurelle a été coupée depuis 1992, lorsque, à l'époque, l'IDP et les autres avaient demandé qu'il y ait coupé des coopérations avec tout le monde. Et donc, il a recommencé à redonner à notre pays l'existence. Et puis, constatant durant cette transition 1 plus 4 un certain nombre de mots qui gangrènent notre pays. Il a lancé donc son programme politique, le 5 chantiers. Ça veut dire quoi? 5 domaines prioritaires qu'il fallait rebooster pour refonder l'État. Refonder l'État dans les domaines d'infrastructures, de la santé, de l'éducation, de l'énergie, de l'emploi. C'est-à-dire que du néant d'où on était, il fallait maintenant commencer à jeter les bases. C'est ce qui a été fait. Mais ce que je dois vous dire tout de suite, avec quels moyens, avec quel argent, Joseph Kabila, j'allais même pas dire génie, mais il a trouvé une idée, une initiative. Il dit, parce que le partenaire traditionnel ne disponibilise pas les moyens suffisants, voyons ce qu'on appelle les nouveaux, les pays émergents, notamment la Chine, l'Inde, le Brésil. Et c'est pour cela que les concepts de win-win qui étaient déjà pratiqués en Angola ont été adoptés chez nous. Nous sommes allés voir les partenaires chinois et qui se sont disponibilisés tout de suite avec une promesse de 9 milliards de dollars. Qu'est-ce que nous n'avons pas eu comme problème? On nous a mis d'abord la guerre. Rappelez-vous, les comptes d'abattoirs, ensuite, déstabilisation en déstabilisation, jusqu'à ce que le Fonds monétaire international nous a poussé à réduire ses disponibilités, notamment de nos amis chinois, à moins de 6 milliards. Aujourd'hui, on n'a même pas consommé 3 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que la RDC puisse avoir les moyens de sa politique. Mais il n'empêche, le Congolais se sont mobilisés pendant les 5 ans du premier mandat de Joseph Kabila pour avoir un commencement de travail. Vous avez vu les engins qui sont venus ici en masse. On a ouvert les routes. On a construit les hôpitaux. On a construit les écoles. On a commencé à payer nos fonctionnaires. On a commencé à redonner vie à ces villes, avec notamment une.
Voilà, Jean-Marie, j'ai donné tout à l'heure des chiffres,
oui,
par rapport aux objectifs assignés par ces projets, notamment la construction de 2000 km de chemin de fer, 32 hôpitaux, 145 dispensaires et 2 universités. Est-ce que vous pouvez, en tout cas, éclairer la lanterne des uns et des autres sur la réalisation? Est-ce que c'est le taux de réalisation, comme le pensent certains, qu'il est faible, ou vous pensez, comme les autres, que le bilan est largement positif?
Alors, je dois vous dire, pour évaluer les 5 chantiers, il faut qu'on ait la culture de la lecture. L'homme qui vous parle édite chaque année ce qu'on appelle l'état de la nation. Le chef de l'État s'exprime une fois l'an devant le Parlement pour donner l'état de notre nation. C'est une espèce de discours bilan qui donne ce qu'on appelle bilan d'état. D'abord, quand il finit son premier mandat, il a fait le programme de la révolution de la modernité en se basant sur ce qu'il avait déjà réalisé. Il a réalisé quoi? Il a réalisé des routes. Parce que pour désenclaver un pays comme le nôtre, qui était complètement disloqué, il fallait des routes.
Combien de kilomètres? Sur 2400 qui étaient prévus.
Aujourd'hui, je peux vous dire que vous pouvez passer de l'Est à l'Ouest par la route. En quittant le Bas-Congo, ce qu'on appelle Congo central aujourd'hui, jusqu'à Lubumbashi, et vous allez contourner jusqu'à l'Est, parce que Joseph Kabila l'a fait lui-même, par la route. Et qui était quasiment impossible, y compris à l'époque de Belge.
Une route avec un standard universel.
On a fait des routes avec des standards, on a fait des routes en terre, on a fait des routes. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle route? C'est d'abord l'ouverture des connexions entre deux provinces. Aujourd'hui, vous êtes ici à Kinshasa, vous allez à Kikwit en une journée. Vous êtes ici à Kinshasa, vous allez à Matadi en une journée. Vous êtes à Bandundu, vous allez à Tikapa. Par la route, en traversant le Polandi, vous êtes à Kananga, vous descendez chez moi en Mouzbaï par la route, etc., etc. Vous êtes province orientale, vous pouvez aller juste au nord, par la route. Mais les infrastructures, ça demande de l'argent, et beaucoup d'argent. On ne veut pas laisser la RDC en paix, parce que
si la RDC est en paix, elle va vouloir créer beaucoup de gens.
Avant de retrouver les auditeurs, quel est-il de l'électricité? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un problème. La population n'a pas accès, en tout cas, à l'électricité comme elle attendait.
Moi, j'ai,
par rapport à des promesses faites.
Moi, j'ai reçu sur mon plateau, il y a quelques jours, les directeurs généraux de la
CIE. Que nous avons reçu par plusieurs fois avec des promesses faites.
Absolument. Et je peux vous donner, en fait, souvent, la réalité du secteur de l'énergie dans notre pays. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Chaque chose a son prix. Les Belges nous ont laissé un réseau électrique avec du câblage, avec des équipements, depuis que la SNEL a été créée en 1974, si je ne m'abuse. Eh bien, les Belges avaient laissé un extension de ce système, on doit créer la SNEL, et depuis tout ce temps, la politique adoptée pour la consommation d'énergie était une politique de consommation sans payer. L'État en premier. La population augmentant, la connexion au réseau aussi, les gens non seulement payent moins, ensuite la gestion de nos sociétés par des Congolais, je dis bien par des Congolais, laissée à désirer. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez des installations qui ne sont pas renouvelées, comme à Inga ou dans d'autres barrages, etc., et que nos villes grandissent au jour le jour, et vous vous connectez aux cabines avec le surcharge des appareils qu'on a aujourd'hui, il faut vous attendre à signer du délestage et du coupure. Lorsque on vient pour collecter de la facture, ou si vous voulez bien, du recouvrement, et que certains refusent de payer, ils disent ah, Inga, c'est notre électricité, on ne doit pas payer. Idem pour
vous. Cet état des lieux, voilà l'état des lieux qui est déjà connu. Mais pourquoi promettre à la population, sachant que cet état des lieux était déjà connu, pourquoi ne pas s'attaquer aux causes?
Attendez, l'état des lieux fait, c'est pour ça que moi je suis venu, ce directeur général, que j'ai reçu il y a quelques jours. Entre temps, ils ont mis en place des politiques de réhabilitation de réseaux, d'équipement. Ça prend le temps des travaux. Par exemple, la deuxième ligne Inga qui doit diminuer le délestage, c'est en cours de finition. Exemple, on a redéployé à travers le province de mini-barrages qui vont pouvoir compléter là où il y a des trous noirs. C'est en cours d'exécution. Aujourd'hui, il faut qu'on ait la patience, nous les Congolais, qu'on ait la patience et la vérité de regarder les choses en face.
Alors, on va revenir à vous, Jean-Marie Kassamba. Nous avons commencé, consommé le premier quart d'heure de cette émission. On va ouvrir le standard avec les auditeurs qui nous ont rejoints. En tout cas, nous signalons que nous avons une seule ligne. Et donc, quand vous appelez, Pierre, de nous déposer votre numéro. Et puis, on va vous rappeler tout de suite. Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour, Amos.
Bonjour JR, bonjour au peuple congolais qui suit la radio Capi, bonjour à l'invité au studio.
Voilà.
Je viens de suivre l'invité et je me dis que nos autorités doivent apprendre à quitter la théorie, à quitter le bioclimatisé et faire une défense sur les terres, s'enquérir de la misère, de la souffrance qui traverse actuellement le peuple congolais. Tenez, M. Vier, quand l'invité au studio peut nous dire que non, le bilan des soi-disant cinq chantiers de la révolution de la modernité est largement positif. Je pense que c'est une honte et c'est un regret pour les peuples congolais. Pourquoi je l'ai dit? Tenez, Vier, par rapport aux cinq chantiers qui nous avaient été lancés par le chef de l'État, l'eau et l'électricité, je pense que le peuple congolais qui suit l'invité au studio est complètement désemparé, est complètement déboussolé de ce que l'invité nous dit au studio et ce qu'on voit sur le terrain. À Bukavu où je vis, la population ne cesse de traverser chaque jour au Rwanda pour aller manger ne fût-ce que de l'eau. Au moment où on nous dit au Congo il y a des rivières, il y a des fleuves et quand c'est d'accord. Vous savez que de l'électricité, là, je ne vais pas beaucoup parler parce que c'était le fait de la semaine passée et tout le monde a démontré que vraiment le tableau est sombre pour ce qui est de l'électricité au niveau de la République. Même dans la capitale où l'invité lui-même vit, et j'espère que même dans sa maison, il n'y a pas du courant. Pour ce qui est de l'emploi dans les mêmes cinq chantiers, aujourd'hui, le chômage est évalué à plus de 90% où nous voyons les licenciés qui sont des motards. Où nous voyons des licenciés qui sont des sentinelles dans des ONG à travers toute la République. Vous savez que c'est de l'éducation. Aujourd'hui, je pense, même si notre constitution stipule que l'enseignement est gratuit au niveau de l'école primaire, mais il faut demander à l'évité ce que c'est au niveau de la République. Dernièrement, à Bukavu, on a lancé des bombes lacrymogènes aux enfants qui ont été réclamés la gratuité de l'enseignement. Pour ce qui est des infrastructures, vraiment, c'est une honte pour notre pays d'avoir des actes qui défendent les mensonges. À part des petites routes de très mauvaise qualité construites dans la ville de Bukavu, des routes que nous qualifions de PCCD. Parce que vous allez voir, on réalise ces routes aujourd'hui. Deux mois après ou trois mois, ces routes se dégradent davantage. Et il faut demander à l'invité au studio quelle route de cette agricole qui a été réhabilitée depuis qu'ils sont au pouvoir. Pour ce qui est de la santé, le bilan est tellement sombre, sombre et encore sombre. Moi, je pense, après que le secteur santé ait complètement échoué, le gouvernement, si réellement il est au service du peuple, on devait d'abord s'asseoir quelque part, évaluer qu'est-ce qu'ils ont fait des 5 chantiers, quel est le résultat, comment la population a vécu les 5 chantiers. Malheureusement, au moment où ils n'ont pas fait d'évaluation, nous avons vu encore d'emblée en 2011 de nous présenter ce qu'ils ont appelé révolution de la modernité. Qu'est-ce qu'ils ont révolutionné? Est-ce qu'on veut révolutionner quelque chose qui n'existait pas? Voilà là où ça passe. Peut-être j'aimerais demander à l'invité au studio. Quand il nous dit que non, tous ces projets ont été financés par les fonds propres de la République. Souvent, nous nous demandons, il y a des projets qui sont exécutés par les ONG à travers le pays. Mais quand vous demandez aux amis qui nous gouvernent, quels sont les projets exécutés par le pouvoir, quels sont les projets exécutés par les ONG, ils n'ont pas de réponse à donner. C'est vrai que je me dis finalement, qu'est-ce que nous devons attendre par rapport à cette
unité. Merci beaucoup, Amos. Je pense que, Allez-y rapidement, bon, je pense qu'il y a Maurice qui attend aussi.
Ok, je voulais te dire que non, nos amis devaient comprendre qu'ils ont complètement échoué. Et tout ce qu'ils nous disent comme 5 chantiers, tout ce qu'ils nous disent comme révolution de la modernité, c'est cette stratégie de nos amis au pouvoir.
Voilà, Amos, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amos, vous avez parlé de l'emploi. Pour vous, le chômage se situe à ce niveau donc de 80%. Mais par rapport aux statistiques nous présentées par le gouvernement, on sait que, au fait que c'est, l'emploi a été donné à la jeunesse et puis les taux de chômage a été réduit sensiblement. Je crois qu'à ce niveau, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand il s'agit de l'eau, vous avez pratiquement signalé que la population, à Bukavu notamment, traverse, va au Rwanda à la recherche de l'eau. Comme pour dire aujourd'hui, en tout cas les 5 chantiers, il n'y a pas de résultat du côté de Bukavu. Les infrastructures, vous avez évoqué quelques cas de points d'attente qu'on a dû essayer pour ne plus qu'aider la population à circuler à Bukavu, mais pour relier Bukavu à d'autres villes, c'est déjà un problème. Merci beaucoup, Amos, d'avoir appelé de Bukavu. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Maurice.
Oui, bonjour, Gérard Mungembo.
Vous avez la parole, Maurice, après avoir suivi Amos.
Oui, je voudrais d'abord inviter notre invité à plus vraiment de modération, plus aussi quand même de considération, de respect même à la population, aux Congolais. Parce que ce que nous entendons, qu'il débite déjà l'antenne,
oui, Maurice,
c'est vraiment l'antipode que nous observons.
Oui, Maurice, nous évaluons. Je crois que vous avez intérêt, par respect aussi des auditeurs qui vous suivent, de vous attaquer directement à la thématique. Comme ça, ça peut nous permettre de continuer avec les débats.
Oui, ok, d'accord. Merci beaucoup. Je veux dire ceci. Vous savez, les deux projets, comme vous les avez plutôt énoncés dans votre thématique sur Internet, je disais même dans ma correspondance que c'est vraiment des projets de triste mémoire pour les Congolais. Parce que ça traverse ces projets, lorsqu'on parle des 5 chantiers de la République, lorsqu'on parle de, je ne sais pas, de la modernité, je ne sais quoi là, c'est vraiment, ça évoque même le malheur du peuple congolais. Ces deux projets, ces deux méga projets qui ont constitué même en fait le socle de la politique du régime actuel. Et c'est vraiment une mafia vraiment à grande échelle.
Est-ce que vous avez des chiffres, Maurice, pour évaluer les statistiques, voulais-je dire, sur le plan emploi, sur le plan accès à l'eau, sur le plan accès à l'électricité. D'ailleurs, à l'électricité, pour ce qui concerne s'agissant de l'électricité, il y a eu un débat le jeudi passé ici, et c'est noir, et je crois que là, on va même plus y revenir. Ici, nous révélons, la plupart des auditeurs ont même demandé la démission du comité de gestion de la SNEL.
Oui, ça c'est un cas parmi les autres, mais je voudrais parler d'abord des problèmes même de la gestion de fonds alloués en fait à ce projet. Vous savez qu'ils ont pratiqué, depuis le lancement des projets, ils ont pratiqué ce qu'on appelle la politique de surfacturation. Vous avez suivi même le rapport, je crois, de l'Azado sur les pratiques, comment on a détourné des fonds sur qui ont été en fait alloués à différents projets. Hein? Vous pouvez prendre par exemple le Transco. Je vous donne, donc je vais partir par des exemples pour ne pas parler de manière aléatoire, sans pour autant produire en fait de preuves. Prenons par exemple le Transco. Le grand bis Transco est acheté en valeur de 100 000, plutôt de 80 000 dollars à l'usine. Mais dans leur manœuvre en fait, dans leur tricherie, vous allez voir que le bis est accepté, est vendu au gouvernement congolais à 150 000 dollars. Le bis qui est vendu à 50 000, et dans les factures en fait, qui sont officielles, vous allez voir que c'est à 100 000 dollars. Vous comprenez dans quelle manière donc, on est en train en fait, de tricher, dans quelle manière on est en train en fait, d'escroquer en fait, la République.
Alors pour vous
comprenez même dans la réalisation de certains projets. Prenons seulement le petit tronçon sur le petit boulevard, le boulevard dit Triomphal. Hein? Le même tronçon réalisé à hauteur de moins d'un million de dollars américains par Désiré Kabila. Mais vous allez comprendre que de l'autre côté, ça a été réalisé à hauteur de plus de 20 millions de dollars américains. C'est de la même manière qu'on a réalisé tous les projets. Je vous dis franchement, c'est une mafia à
fond. Voilà. Merci beaucoup, Maurice. Merci beaucoup, Maurice. Vous avez évoqué la mafia autour de ça. Donc, on peut dire, c'est vrai que ce problème des commissions, en tout cas, je ne sais pas, c'est comme ça que moi j'ai interprété, problème des commissions, la corruption et aussi des détournements des fonds par rapport à ces projets et qui ont fait qu'aujourd'hui, les résultats qu'on attendait, ce n'est pas celui-là. Il y a vraiment, comme a dit votre prédécesseur, un échec par rapport à l'exécution de ce projet. Voilà, donc pour vous, c'est vraiment de la tricherie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées par rapport à ça. Donc aujourd'hui, nous devons être honnêtes pour dire qu'effectivement, le bilan, il est négatif. Voilà. Alors Jean-Marie, vous venez de suivre ces deux auditeurs. Alors, quelle est la réaction? Parce que d'aucuns disent il y a une politique de surparticipation. Il y a un mot qui a évoqué, en tout cas, qui a détaillé l'emploi, l'éducation, l'électricité. Et pour lui, le bilan est vraiment, c'est vraiment un échec.
Bon, écoutez, je vais rester très calme et m'adresser à mes compatriotes en leur demandant d'avoir la culture des chiffres et d'avoir ce qu'on appelle la sérénité dans la manière d'analyser les choses. D'où nous venons, nous, la RDC? Je pense que la plupart de ceux qui s'expriment sont nés dans les années 70, parfois 80. Ils ont vu dans quel état notre pays était. Et ils le savent. Ils savent que pour développer un pays, il faut les sous-bâtiments nécessaires. Il faut des moyens, il faut du temps, il faut de personnes pour le faire. Ce qui a été fait, c'est quoi? C'est d'abord réhabiliter ce qui n'a pas été durant plus de 40 ans. Sur le plan économique, sur le plan des infrastructures, je prends les cas, par exemple, de Bukavu. J'ai écouté mon compatriote de Bukavu. La route entre Bukavu et Kavumu, ça ne marche plus. Moi, j'ai fait cette route. Vous mettez des heures et des heures pour arriver à l'aéroport de Kavumu. C'est praticable aujourd'hui. Ne serait-ce que la voirie de Bukavu, parce que Bukavu, c'est une ville accidentelle, si vous voulez bien, en dénivellation. Les gens arrivent à se déplacer dans Bukavu. Vous prenez le cas de la ville de Kinshasa, parce que j'ai écouté notre compatriote tout à l'heure qui parlait de la ville de Kinshasa. Tout le monde sait qu'ici, à Kinshasa, il y avait des communes qui étaient coupées les unes des autres. Il n'y avait pas de boulevard comme ce que nous avons aujourd'hui. On n'arrivait même pas à nettoyer cette ville. Aujourd'hui, il y a encore des problèmes de saleté. Il faut continuer à faire le travail.
Moi, ce que je demande à mes compatriotes, ce n'est pas d'avoir la culture de la rumeur, la culture du Congolais pessimiste. Pourquoi les étrangers qui viennent chez nous, ils ont une certaine admiration par rapport à l'évolution? Je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que tout ce qui est fait déjà est extraordinaire, mais j'ai dit des changements, des transformations. Parce que ce sont des Congolais qui travaillent, les Congolais avec leur méthode, avec leur culture. La corruption dont parle mon compatriote aujourd'hui, elle est faite par qui? C'est des Congolais. Ces Congolais, si c'était la pratique de mettre tout le monde en prison, on commencera à faire quoi? On commencera à mettre même la maman qui vend des cacahuètes au coin de la rue. Il faut une certaine culture pour faire ça, en fait, la nouvelle citoyenneté. Le chômage dont on parle, parlons-en un tout petit peu. Quand on publie les résultats des objectifs du millénaire pour le développement, il y a celui qui était ministre du plan, qui s'appelle Olivier Kamitatou. Je le cite. Au mois de janvier, il a participé à la rédaction du rapport. Ce rapport existe. Il faut que les étudiants, les intellectuels notamment, lisent ces rapports. Qu'est-ce qu'est dit ces rapports de l'augmentation du niveau de vie? Il dit que la RDC a fait des bons en avant. On a gagné 10 places. Dans le secteur du chômage, l'actualité, je parle moins de l'actualité. La Banque africaine de développement vient de mettre à la disposition de la RDC 10 millions de dollars rien que pour les jeunes. Parallèlement, l'État congolais a mis plus de 600 millions de dollars pour permettre la création d'emplois entre le ministère de Pétition et l'entreprise, le FPI, et l'INPP. L'INPP qui a été modernisé aujourd'hui. Non seulement par Kinshasa, mais à travers les
frontières. Les statistiques sont contrôlées par l'indice de développement humain.
Mais lisez justement l'indice de développement humain. Moi, j'ai ce rapport. La difficulté avec nos compatriotes, c'est qu'ils ne lisent pas. Ils ne prennent pas le temps d'avoir les vrais chiffres. D'aller dans le ministère, d'aller par exemple à la Banque mondiale. Pourquoi la Banque mondiale et pourquoi l'État international? Pourquoi l'UNICEF, par exemple, dans le secteur de l'éducation, prend la RDC comme modèle? Ma tante Antonio a été invitée dernièrement à Oman, à Bruxelles, il vient de venir de l'Égypte, et on dit, l'un des pays qui a investi plus d'argent dans l'éducation, c'est la République démocratique du Congo. Dans le secteur, par exemple, de la santé, on a équipé nos hôpitaux des provinces. Les équipements sont déjà là, achetés par l'UNICEF, avec les fonds de la République. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quand les gens... on ramasse comme ça des informations des côtes à droite. On ne fait pas la culture de la recherche.
Combien d'écoles, si vous pouvez nous éclairer un petit peu?
Aujourd'hui, plus de 700 écoles. Plus de 700 écoles.
Et les centres de santé, pour parler peut-être des hôpitaux?
On a fait venir ici dans notre pays plus de 400 écoles.
Il y a le cinquantenaire. Il y a l'hôpital
Saint-Gabriel à Kinshasa, il y a le Saint-Gabriel à Kisangani, il y a dans chaque ville, grande ville, ce qu'on appelle les hôpitaux de référence. On a équipé
les hôpitaux construits ou réhabilités.
Il y en a qui sont construits, il y en a qui sont réhabilités. Notre pays a été déclaré le pays sans polio. Ça, ce sont des informations officielles dans notre pays. Nous sommes cités dans le secteur de la santé comme le pays modèle pour la lutte contre Ebola, par exemple. On a fait venir dans notre pays ici des gens pour apprendre comment la RDC gère Ebola. Les taux, par exemple...
Donc, tout ça, vous mettez dans l'actif du bilan.
Mais ça fait partie des réalisations sur le plan économique pour nos compatriotes. Ce pays... a un taux d'inflation, ça veut dire quoi un taux d'inflation? Ça veut dire que votre monnaie, la valeur de votre monnaie, le plus faible d'Afrique. Aujourd'hui, le franc congolais est un franc dit fort. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même le cadre macroéconomique qui est tenu. Autrefois, il y a moins de 20 ans, même pas, moins de 15 ans, si vous avez des francs, les Zaïre, le matin, les taux à midi, les taux le soir. Aujourd'hui, notre monnaie tient, malgré la crise financière.
On verra si
ce que je vais vous dire est que Moi, j'ai publié des documents. J'hésite, si quelqu'un veut.
Il est pas sur la visibilité de cette
absolument,
révolution.
Mais il faut qu'on évite les amalgames. Ce qui est très triste, en fait, dans notre pays, c'est quand quelqu'un fait l'analyse de la situation dans le pays, et il part comme ça, d'une
petite façon à
toi. Alors, on va voir les auditeurs qui nous ont rejoints dans ces débats. Il y a Simon qui est à Batadi, 081-890-7315, pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Nous poursuivons avec Parole aux auditeurs et nous entamons la deuxième demi-heure de cette émission. Simon, vous êtes à Batadi, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Batadi, oui. Au Congo central. Quel est votre avis?
Oui, en fait, la vie à émettre, c'est difficile pour que la population qui vive les réalités elles-mêmes, lorsque nous parlons, et si nous disons autre chose de ce qu'elles vivent, ils nous appelleront menteurs ou farceurs. Vous savez, par exemple, sur le plan éducation, parce que c'est là où je vais beaucoup m'atteler. En fait, sur le plan texte, arrêté, décision, ordonnance, la RDC a vraiment fait des avancées. Parce que les textes sont là, ainsi de suite. Mais le problème, c'est l'application et l'accompagnement. Moi, j'aime beaucoup le ministre de l'EPSIC qui a accompagné le gouvernement de la République qui, lorsque il prend une décision, il met en place et il se bat comme un diable dans un bénitier pour que de manière administrative, ce principe soit posé sur tous les établissements de la République démocratique du Congo. Mais si le gouvernement, en général, le budget ne l'accompagne pas, ça sera un problème. Ça sera une proposition sans valeur. Nous prenons par exemple le problème de l'accès à l'éducation. L'accès à l'éducation, lorsqu'on a rendu l'école primaire gratuite, le gouvernement le sait. Et le gouvernement n'a pas accompagné cette gratuité en termes de rémunération ou sinon des manques à gagner qu'il fallait donner à tous ces enseignants qui nous donnent les premières leçons de nos vies. Vous imaginez par exemple ma province du Congo central sur les 38 219 enseignants et quand vous voyez la population normale on a 0,9%. Donc les enseignants représentent un pourcentage de 0,9%. Pas même 1%. Ce qui fait que déjà sur le plan nombre d'enseignants, ça crée un problème. De quand vous prenez la surface de notre province, ici de ma province, vous divisez par nombre d'enseignants, vous trouverez que ça fait 0,7% d'enseignants par kilomètre, pas même un enseignant par kilomètre, ce qui crée un problème. L'accès à on a vu l'engouement, on a vu comment les élèves sont venus. Mais comme on dirait les regards ne sont pas vraiment tournés, on n'accompagne pas le ministre Makere Mwangu qui se bat comme un diable dans un bénitier. Vous savez maintenant l'accès a provoqué. Aujourd'hui l'accès c'est bon, mais il faut voir le taux d'achèvement. Parce que ces enfants qui commencent avec beaucoup de problèmes qui se créent comme ça, et tout ça, ça, le taux d'achèvement est inférieur. Vous allez au secondaire, de même, les taux d'entrée en première année secondaire pour les moins de 12 ans. C'est à peine 55%. Donc 45%.
Voilà. Alors, je
crois que c'est là. Je voulais terminer, JL. Voilà, c'est un détail important. Mmh. Dans l'entretemps, en sixième des humanités, le taux d'achèvement est de 28%. Donc, si 100 élèves commençaient la première, 28 seulement qui arrivaient. Le vrai problème, c'est le problème de retenir à la source. Les 40% ne viennent pas. Aussi encore, ce qu'ils avaient, parce que la province peut elle-même accompagner l'enseignement ou la santé. Si les 40% venaient, mais combien de pourcents voilà. viennent au voilà. Congo, même les frais d'investissement,
voilà.
on n'en bénéficie pas depuis voilà. 2010. Il fallait se battre pour résoudre voilà. tous ces problèmes.
Merci.
Ça crée encore un sérieux problème.
Merci beaucoup.
Marco Simon, vous êtes attelé beaucoup plus sur le secteur de l'éducation. Vous avez même eu le temps de jeter des fleurs à son excellence, monsieur le ministre de l'Enseignement et de la nouvelle, de nouvelle technologie, de l'information et de la communication et de la citoyenneté. Voilà. Alors, voilà, vous avez évoqué des textes, des arrêtés, des ordonnances qui, aujourd'hui, constituent quand même des avancées dans le secteur de l'éducation, mais c'est l'application et l'accompagnement de ces textes ou de ces dispositions qui posent énormément de problèmes. Vous avez cité tant d'exemples. Merci beaucoup. Albert, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Albert.
Bonjour Gilles, bonjour à tous les Okapi et bonne fête à toutes les femmes.
Alors, je crois que, Albert, ce que les autres ont déjà dit avant à un moment, donc on va évoluer. Et pour vous, est-ce que le bilan est-il positif de tel chantier ou encore de la révolution de la modernité ou c'est mitigé comme le pensent aussi certaines personnes?
Ok, avant que je ne puisse parler du bilan, je voudrais d'abord porter une analyse sur deux aspects par rapport à cette thématique d'aujourd'hui. Là, je commencerai d'abord par l'aspect qui serait lié à la forme que j'ai cité par l'aspect qui serait lié au fond. Quant à l'aspect lié à la forme, je crois très bien que tous les collaborateurs qui seraient autour du chef doivent cesser de faire ce que moi je suis qualifié de jouer le sacaïonça. Parce que le moment du sacaïonça a déjà largement évolué. C'est-à-dire quoi? Jouer les 145, c'est-à-dire se faire se valoir, à montrer au chef que tout ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain, va de manière rose, soit que ça satisfait le besoin ou le
besoin. Oui, Albert, s'il vous plaît.
On a peut-être que
oui, s'il vous plaît, Albert. S'il vous plaît, Albert. Oui, gagnons du temps, s'il vous plaît, Albert. Est-ce qu'on peut aller droit au but?
Oui. Pour aller droit au but, je dirais peut-être que le bilan serait mitigé pour ne pas dire que c'est impératif. Mitigé par rapport à quoi? Nous, nous reprochons des cinq chantiers, mais encore de révolter la modernité de des choses. La première chose, c'est que le projet soit extrêmement déqualifié d'un seul projet, mais qui souffre de la fondation de néologisme ou de qualification, et souffre de ce que nous appelons de manque de planification. La seconde, c'est que le même projet souffre aussi du manque de suivi, qui sont des éléments clés pour ce qui est de la planification ou de réalisation d'un projet afin d'aboutir à des résultats. Cela voudrait dire quoi? Prenons par exemple le secteur de l'éducation, qui est le secteur maître de tout, parce que le développement n'est pas énormément. La Constitution consacre la gratuité de l'enseignement. Mm-hmm. Mais avant que nous ne parlions même de la gratuité de l'enseignement à l'école primaire, est-ce que le phénomène prime ou don des parents a déjà cessé d'abord pour que nous puissions aspirer, même nous soyons espérés, à sa gratuité? Je crois très bien qu'il y a à boire et à manger. De deux, nous avions toujours vu dans ce même secteur, évidemment, il y a mon prédécesseur qui a parlé des normes avancées quant à l'édition ou à l'émission des arrêtés, des fois, ou soit même des délais de réalisation des examens. Mais moi, je trouve parfois aussi peut-être que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire est trop formaliste par rapport à attaquer les problèmes de fond qui seraient liés à la qualité de l'enseignement et surtout à lutter contre les insalaires qui seraient soit la corruption, le vagabondage des élèves et d'autres insalaires peut-être que nous vivons au quotidien. Mais on s'attelle à des dates pour peut-être permettre d'avoir des résultats très tôt, de faire quoi pour faire valoir peut-être qu'on fait ce qui est mieux. Moi, je crois seulement que pendant la période d'Isaïe, les examens, le résultat de l'examen d'État, par exemple, était entraîné, mais aussitôt, les résultats venaient. Quand on voyait un diplôme de l'époque d'Isaïe, était respecté à travers le monde, ce qui n'est pas...
Voilà, Albert, là, nous allons dire beaucoup de choses à la fois. Ça risque vraiment de nous prendre du temps. Merci beaucoup. Mais on a compris que pour vous, simplement, il y a manque de planification dans ces projets. C'est là où il y a eu, en tout cas, le péché de ces projets, c'est le manque de planification. Merci. Alors, on va prendre un auditeur, en tout cas, le tout dernier pour cette série. Arsène, vous êtes à Kikwik. Arsène, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Bonjour. Bonjour à tout le monde.
Voilà, Arsène, vous avez la parole.
Merci beaucoup pour la parole, M. J.R.
Est-ce que vous partagez l'avis que le bilan est négatif ou encore il est mitigé?
Très négatif. Le bilan est négatif, il faut le dire, clairement, il ne faut pas avoir honte. Ce que je veux d'abord commencer à reprocher, c'est ce que j'avais toujours appelé le dialogue. Il faut éviter ça. Il faut éviter. Il faut être objectif. Quand on fait une analyse, quand on veut faire quelque chose, il faut être vraiment objectif.
Quels sont vos
je prends l'exemple de Kikasson. Là où je suis. Ici, à Kikuit, au début de la mandature du président de la République, le président est venu nous visiter à Kikuit. Moi, je ne prends pas ce que les administratifs et ce que tous les autres ont écrit ont dit au président. Je prends ce que la population a dit au président de la République. Courant mai. Les deux premières choses demandées au chef de l'État. Aujourd'hui, 10 ans après, on commence d'abord par les mots tels que 5 chantiers. Une démagogie vraiment bien établie. Vous demandez à Kikuit, personne ne vous dira quelque chose sur les 5 chantiers. Nous n'avons rien vu. Aujourd'hui, on parle de la révolution de la modernité. Nous sommes enclavés dans des ravins. Qu'est-ce qu'il y a de modernité? La route Kikuit-Kinshasa, on l'a fait beaucoup de publicité. Moi, j'avais voyagé en voiture hein, de Kikuit-Kinshasa depuis 1975. Donc, si vous n'avez pas entretenu les routes et que vous venez réparer après, ce n'est pas une chose où on va faire beaucoup de bruit. C'est vraiment ordinaire, il faut prendre ça, c'est élémentaire. La réparation d'une route n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Soyons objectifs dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, voilà. Je vais prendre un petit exemple, s'il vous plaît, JR. Un petit exemple. Il y avait une pancarte à 100 mètres du port de Kikuit, avec des bateaux, des trains à grande vitesse, ainsi de suite. Ce que je trouvais drôle, à ces 100 mètres, il y avait des pirogues. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a que des pirogues. Mais dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez défendre? Soyons critiques et nous allons voir un peu. Là où nous sommes faibles, nous essayons de réparer. Voilà, mais si nous ne sommes pas critiques, on ne saura pas faire quelque chose.
Merci beaucoup, Arsène. Là, carrément, vous avez rejoint vos prédécesseurs en disant qu'effectivement, le bilan, en tout cas, est négatif. Mais il y a Simon qui a évoqué quand même quelques avancées de ce projet, entre autres au niveau de l'éducation, avec des textes, des arrêtés, des ordonnances, et qui annonçaient quand même des activités importantes dans les secteurs et qui, on fait qu'aujourd'hui on puisse avoir disons une autre quand même une bonne image au niveau de l'extérieur, mais seulement ce qu'on a regretté, c'est que nous appelons les taux d'achèvement en évoquant bien entendu les problèmes à 40%. Voilà. Alors Jean-Marie Cassandra,
écoutez, je vais être encore plus direct avec mes compatriotes et je vais rester synthétique. Mon compatriote qui vient d'appeler des critiques et il le sait. Lorsqu'on parle de la province ex-Bandundu, on ne peut pas oublier le pont Luangé, aujourd'hui qui relie les deux provinces. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, Takobola est en train d'être fait, c'est pour donner de l'électricité, ça prend le temps des travaux. Il parle de la route de Kikuit. Oui, c'était en 1975, et depuis 1975, pour quitter Kinshasa, aller à Kikuit, ça posait énormément de problèmes. Il y a des constructions des écoles aujourd'hui, y compris au Katanga d'ailleurs, à travers la province.
Des écoles modernes.
Des écoles modernes, et il le sait. On a mécanisé nos enseignants. Aujourd'hui, on paye les enseignants via les banques ou via Caritas, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, le ministre du budget est en train de mettre aujourd'hui en place des mesures de répression des systèmes
de comptables qui détournent l'argent.
Aujourd'hui,
il a même annoncé ce
j'ai dit, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Ce qui existait autrefois, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais il faut quand même reconnaître que ce sont des Congolais. Ceux qui détournent l'argent de la République, ce sont des Congolais. Et très souvent, quand on arrête les gens, on oublie que la justice doit faire son travail. On va leur dire, l'État devient policier, ce sont des opposants, ce n'est pas possible, on arrête les gens, les droits de l'homme, etc. Il ne faut pas demander une chose de son contraire. Nous ne sommes pas là pour dire que le Congo est devenu la France, est devenu les États-Unis. Non, nous disons, dès là où était notre pays, il y a beaucoup d'avancées. Et il faut saluer ces avancées. Un intellectuel qui est honnête est celui qui voit que il y a aujourd'hui des constructions partout. Ces constructions, ce sont des Congolais qui travaillent. Il y a des supermarchés partout. Dans ces supermarchés, il y a des Congolais qui vont acheter. Chacun selon son pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nos fonctionnaires à nous ne connaissent plus des mois d'impayement comme il y a 15 ans, 20 ans. Ça, ce sont des réalités d'aujourd'hui. Et non, on ne doit pas dire que les 5 chantiers ou la révolution de la monnaie était venue comme une baguette magique pour transformer le Congo en un paradis en l'espace de peu de temps.
Parce qu'entre-temps, qu'on se divise aussi, il y a la cacophonie sur le plan politique. Trop de partis politiques, trop d'ONG qui sont phagocytés par notamment si tu ne veux pas le Congo avance. Quand on prend des mesures, on nous manipule de l'extérieur, même les gens qui sont au gouvernement. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire la planification, on ne planifie pas. Mais il y en avait un ministre du plan pendant plus de 10 ans. Personne ne lui a jamais demandé bilan.
Problème de sous-participation.
Non, j'ai dit personne ne lui a demandé de bilan. Ministre du plan. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 10 ans?
Mais ça nous empêche pas de faire le bilan.
Il s'est reconverti opposant et il commence à donner des leçons, etc. Si on va même au Katanga, j'entends beaucoup de gens dire oui, c'est des populaires, etc. Mais si on regarde de très près, ni c'est l'argent de péage de Kassoumbalessa, ni c'est l'argent produit par l'administration.
C'est pas les seules choses que je sache.
Mais les seules choses, ça veut dire quoi? C'est une vision exécutée par l'ensemble des administrés, l'ensemble des gouverneurs, l'ensemble des ministres, l'ensemble des institutions de la République. Ce n'est pas chacun dans son coin qui fait ce qu'il veut. Non. Mais entre le Nord et le Sud Katanga, il y a un débat. Mais quand on interroge tous les Katangais, ils vont vous dire, oui, au-delà de la propagande, au-delà de ce qu'on appelle un peu la poudre aux yeux, il y a la réalité du terrain.
Alors la réalité à Kindou.
À Kindou
aujourd'hui.
Écoutez, parlons-en de Kindou. L'aéroport de Kindou réhabilité. L'université de Kindou réhabilité.
Par la générosité d'un commerçant.
Attendez,
un commerçant qui voulait
hier, je vous dis que l'aéroport de Kindou a été réhabilité par l'État congolais.
Nous avons fait une émission aujourd'hui, on l'a rejeté. Des députés de quoi qui ont rejeté un blanc.
Mais l'aéroport de Kindou, et je l'ai dit, je le confirme,
sous contrôle,
réhabilité par l'État congolais. La voirie de Kindou a été réhabilitée par les fonds propres de la République. L'université moderne du Maniema, par l'État congolais, plus de 3000 étudiants qui étudient aujourd'hui équipés. Donc, il ne faut pas, comme ça, j'ai le discrédit sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Moi, j'invite mes compatriotes à avoir ce qu'on appelle la tête froide, c'est-à-dire regarder d'où nous venons, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, ce que nous devons faire à titre personnel, parce que chacun là où il est, il a de devoirs.
Mais le problème, c'est que de l'essai chantier à la révolution de la modernité, oui. On n'a pas répondu à ce devoir de rédévabilité. C'est-à-dire dire au peuple, nous avons promis, dans le cadre de l'essai chantier, l'accès à l'eau, l'accès à l'emploi, l'accès à l'éducation. Voilà ce que nous avons
fait.
Voilà ce qui reste.
J'ai commencé par vous dire que le président de la République a la culture de la rédévabilité chaque année. L'état de la nation. On publie ce qu'on appelle la révision des comptes chaque année. Moi qui vous parle, qui fais le suivi, je publie chaque année des résultats, province par province, ce qui a été fait, chiffré. Il faut que nos compatriotes aient la culture de la recherche, la culture des chiffres, qu'ils puissent regarder en face d'eux. Aujourd'hui, quand vous êtes...
Mais quel est le lien que vous faites, vous, en tant que, non seulement journaliste, mais aussi coordonnateur,
oui,
du tel chantier, révolté de la modernité, aujourd'hui, projet pour l'émergence de la RDC en 2035,
oui.
Quand le chef de l'État, lui-même, dans plusieurs conférences, revient sur l'inadéquation entre le vécu quotidien de la population aujourd'hui et les cadres macroéconomiques. Est-ce là, elle n'est pas...
Ça, c'est ce qu'on appelle l'inclusivité entre la stabilité du cadre macroéconomique et... l'application au jour le jour, ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Et ce n'est pas une spécialité congolaise. La croissance ne veut pas dire la redistribution à 100% et à tout le monde de revenus d'une manière exponentielle. Allez en Chine, vous allez trouver qu'il y a des Chinois qui ont des problèmes, qui souffrent. Allez aux États-Unis, il y a les homeless qui souffrent. Là en France, aujourd'hui, avec un taux de chômage extraordinaire, la France est la 5e puissance économique du monde. François Hollande est le président le moins populaire du soir. Obama lui-même est en train de finir son mandat avec un taux de popularité très bas. Pourquoi? Parce que la crise est mondiale. Nous sommes pourvoyeurs, si vous voulez bien, exportateurs de matières premières, le cuivre, etc., y compris un peu de pétrole. Et ça nécessite des moyens de développer un État.
On ne développe pas une
histoire. C'est ce que vous voulez faire. On prend deux auditeurs et puis on revient à vous pour la conclusion. Philippe, vous êtes à Kindou. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Monsieur JR, bonjour les auditeurs de la radio Kapi à travers le monde entier. J'aimerais aussi intervenir en ce sens. J'aimerais présenter à la face du monde la réalité du bilan du chef de l'État.
Oui, ce n'est pas le bilan. Philippe, mais ce n'est pas le bilan du chef de l'État. Nous faisons le bilan du 5 chantier. C'est ça, des promesses faites en 2006.
Oui. Oui, mais c'est JR. Moi, j'aimerais donner le bilan positif avec quelques quoi irrégularités. Pourquoi? Je ne peux pas être comme les auditeurs émotionnés. J'ai déjà compris, la plupart de vos émissions, ce sont des auditeurs émotionnés qui donnent des bilans en étant même émotionnés. Moi, d'abord, je suis un analyste politique et encore politologue. J'aimerais aussi vous donner un bilan positif. Pourquoi? Du côté où? Moi, j'ai circulé presque la quasi totalitaire de la Congo Kinshasa. Et j'aimerais même vous donner le bilan en haut à partir de Kin. Bon, j'ai vécu Kin pendant 15 ans. J'ai vécu Lissala, j'ai vécu Bukavu, j'ai vécu Goma. Aujourd'hui, je suis à Kindou et parti par là. J'aimerais vous donner du côté haut ici à Kindou. Ça faisait plusieurs temps où l'eau ne coulait pas dans les robinets de Kindou. Mais grâce au nouveau programme du chef de l'État, nous avons vu que l'eau coule régulièrement dans les rues des robinets de Kin. Et sur le plan infrastructure, je parle à toute sincérité en tant que scientifique, j'ai donné les appuis en disant qu'il y a vraiment des avancées, mais des irrégularités. Du côté infrastructure, ceux qui parlent très bien et qui savent Kindou et d'autres provinces, il y a des bâtiments qui sont construits en étage. Ici, à Kindou, par exemple, la DGI, la DGDA, la DGM. En parlant de l'université, ce que dit les messieurs, l'intervenant, en disant l'électricité, j'aimerais soulever quoi? En disant, pardon, l'université. Ici, à Kindou, il y avait le centre universitaire, extension de Lubumbashi. Il n'y avait pas l'université à Kindou. Mais actuellement, avec les programmes, il y a vraiment l'université de Kindou avec des hommes auditoires et tout comme laboratoire en tant que médecin, dans un cas approprié construit sur le plan propre du gouvernement congolais. Ce n'était pas réhabilité. Et d'ailleurs, à l'époque, là, on étudiait à l'année là, on disait, oui, écoutez, on disait que les centres du garage, les étudiants garage, il y avait des garages. Je reviens toujours à Kinshasa. À Kinshasa, du côté infrastructure.
Regardez
la route qui mène, qui descend, jamais vers quoi les terrains, waya. En 2008, ces terrains n'étaient pas réhabilités. En 2008, on m'avait pris en pouce pour que je puisse prendre les transports sur le poids lourd. Mais aujourd'hui, regardez, Kizambe jusque là-bas au terrain Wayawaya en bas là. C'est là même que j'habitais, mais aujourd'hui c'est réhabilité. Je n'ai pas même la personne
voilà.
Qui a parlé
nous
de
n'allons pas sortir
de l'eau.
Voilà.
Il y avait encore du chantier.
Voilà. Philippe, on n'a plus un temps, le temps peut-être encore donner la parole à notre invité pour. Mais on n'a plus assez de temps. Il nous reste 4 minutes. Philippe, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous permettre de passer aussi à un autre auditeur à qui nous allons accorder peut-être une minute? Philippe, voilà. Nous avons compris quand même, Philippe nous a brossé là le bilan qui est positif d'après lui au niveau des Kindou et au niveau des Kinshasa. Il a évoqué quand même le chanson Waya Izam. Je crois que ceux qui habitent le coin, ils peuvent peut-être en témoigner davantage. Maître Sobil, on va terminer avec vous la liste des auditeurs. Vous êtes à l'ouvrage. Bonjour, Maître Sobil.
Bonjour, Monsieur J.R.
Rapidement, vous avez une minute.
Par rapport à la thématique, Monsieur J.R., comme je suis un peu le dernier. J'estime que M. Kassamba, il doit choisir un bon cas, puisque pour détruire un avocat, il faut défendre une cause juste. J'estime qu'avec le rang des vrais Kabila, il est décédé sans laisser aucune dette au pays. Mais dire que la jeune Kabila trouvait le pays en lambeaux, ça, là, c'est une insulte sur le héros national. Vous comprendrez avec moi, monsieur.
Allez-y, M. Kassamba, quel est le chemin que vous allez présenter?
Combien de kilomètres ils ont construit le chemin de fer? Combien de kilomètres pour les routes, l'électricité, l'université, ils en ont promis deux. Où sont ces deux universités qui ont été construites? J'estime que M. Jean-Marie Kassamba est ivre de lait. Faut que nous savons même.
Voilà, je crois que
Maître Sombier, que c'est Régis, le plan de développement.
Maître Sombier, vous êtes l'ancien de cette édition. Je crois que vous connaissez bien le principe. Je crois que on fait un échange d'idées. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas sur des personnes. Merci beaucoup, Maître Sauville. Alors, on revient à vous, Jean-Marie Kassamba, en conclusion. Parce que moi, je sais qu'à un certain moment, en 2008, il y a eu ce qu'ils ont appelé l'évaluation de ces chantiers avec des partenaires. Il a été, tout le monde, les participants, convoqués, après cette réunion, par le président Kabila lui-même, il a été convenu, en tout cas, de commun accord avec les partenaires, d'accélérer les réformes dans les secteurs prioritaires, d'améliorer et simplifier les procédures de mise en œuvre des programmes et projets des partenaires, d'accélérer les effets en matière de bonne gouvernance, et tant d'autres que je vous épargne les détails. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment arrivé? On est à quel niveau?
Alors, je dois vous dire que, il y a quelques jours à peine, le chef de l'État a sorti le 28 mesures pour redresser notre vie dans cette période de crise. Je vous signale qu'il y a des ministères sectoriels, notamment un ministère qui s'occupe du sujet de la révolution de la modernité. Ça veut dire un ministère de planification. Le programme qui vient d'être publié, ce qu'on appelle le plan stratégique à horizon 2030, c'est ça la planification, avec des moyens et des hommes qu'il faut mettre à disposition. Dans notre pays, il faut qu'on évite un peu la passion et... faire comme ça des analyses à l'emporte-pièce. Pourquoi? Parce que, lorsque, même si vous êtes critique vis-à-vis de votre pays, dire du mal de votre pays, ça ne vous donne pas une médaille. Ça ne vous honore pas. Moi, je ne connais pas un Américain, un Français, qui passe le plus clair de temps à insulter son pays. Il faut plutôt regarder les avancées qu'il y a, essayer d'apporter des améliorations nécessaires, et puis, le cas échéant, participer aussi. Pourquoi? Parce que même les gens qui disent qu'ils sont dans l'opposition aujourd'hui, mais il y a à peine quelques jours, ils étaient aux commandes. Et ces mêmes personnes racontaient matin, midi, soir qu'ils sont en train de réaliser la révolution de la modernité, en train de réaliser les cinq chantiers, etc. Ce qui est plus important pour notre pays, c'est le bien-être de la population.
Alors,
En dernier mot, le taux du chômage doit être analysé avec les chiffres du Bureau international du travail. Qui dit quoi? Le travail même informel qui procure de revenus à quelqu'un, c'est du travail. Il faut qu'on ait la culture de la comptabilité. Il faut qu'on puisse aujourd'hui assainir nos finances publiques, travailler. Il faut qu'on évite de penser que l'argent tombe tout seul. L'argent découle du travail. La culture du travail, c'est ça qui peut faire que,
voilà,
au-delà des discours, au-delà des polémiques politiques, etc., il faut que les Congolais aient la culture du travail. Travailler pour que
notre pays arrive. Vous êtes également président de l'UNPC, Kinshasa.
Oui.
Peut-être un message par rapport aux journalistes.
Le message, c'est d'abord encourager mes confrères journalistes pour qu'ils puissent avoir leur carte. On a donné des délais jusqu'au 10 mars pour qu'ils puissent avoir une carte, mais également cotiser pour cette année. Mais il faut qu'ils fassent aussi de l'apprentissage, encadrer la population, donner de la bonne information. Dans la bonne information, parce que
tout c'est
la même chose.
Jean-Marie Kassamba, promoteur de Télé 50, président de l'UFC Kinshasa et coordinateur de cinq chantiers, visibilité de cinq chantiers, révolution de la modernité, aujourd'hui programme stratégique pour aller à l'horizon 2030. Merci d'avoir été de l'autre.
C'est moi qui vous remercie.